C'est là que le Seigneur nous dirige, matin, Lamentation au chapitre 3. Moi, je suis content quand le Seigneur nous dirige là, mais c'est tellement beau. Il y a des places là que je suis là. Aïe, merci Seigneur, ça c'est un cadeau. Là. Puis, on va lire, on a lu le chapitre au complet. Je vous ai expliqué, hein, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a un design. Dieu a vraiment... tu sais, on sait que les versets, c'est pas inspiré, mais comment c'est structuré, le Seigneur l'a voulu ainsi. Le livre de Lamentation est en 5 chapitres qui sont basés sur chaque chapitre avec un acrostiche de l'alphabet hébreu, 22 lettres. Donc, tu sais, premier verset, c'est avec la première lettre, deuxième verset avec la deuxième lettre, Aleph, Bet, machin truc, et jusqu'à Tau. C'est pas au général Tau, c'est une autre sorte de Tau. Puis, le milieu du livre, le chapitre 3, mais c'est trois fois l'alphabet, 66 versets. Et en plein milieu du milieu, donc le deuxième set, le deuxième acrostiche dans le chapitre 3, c'est là qu'est le cœur du message. Puis c'est vraiment l'idée de se tourner vers Dieu. Puis vraiment, je vous dis que la structure du texte nous dit, dans la souffrance, dans la misère, puis on a vu au début du chapitre 3, là, il dit, Dieu, il m'a fait vraiment vivre des affaires vraiment incroyables. Puis il dit, j'en étais désespéré. C'est comme un absinthe que je bois. Mais voici ce qui va me redonner de l'espérance. Donc, le message, c'est vraiment, Dieu est là au milieu même de l'affliction, de la souffrance. Donc, le message du livre est là en lettres écrites noir sur blanc, mais aussi même la façon que Dieu nous l'amène en disant, dans le milieu même de la souffrance, je suis là. Je suis auprès de ceux qui m'invoquent. J'aime tellement le verset 57. « Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. » Puis on parle de celui qui a été dans la fosse et qui a vraiment été dans des situations extrêmement difficiles pour avoir été fidèle à Dieu, prêcher le message que Dieu lui demandait de prêcher. Donc, c'est ça. On lit les versets 19 à 33 ensemble. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasira d'opprobre car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion dans sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » On te remercie, Seigneur, de ce temps qu'on peut prendre dans ta parole. C'est ta parole, Seigneur, c'est toi qu'on veut contempler. C'est ta voix qu'on veut entendre, Seigneur. Tu te fais entendre, tu te fais ouïr à tes enfants qui te cherchent. On l'a exprimé, Seigneur, c'est toi qu'on cherche. On ne veut pas te nécessairement avoir tout le comment, le pourquoi, souvent on devient tout confondu. Ah, mais Seigneur, c'est le qui est derrière tout ce qu'on vit, ce que tu permets qu'on veut découvrir. C'est toi, Seigneur, qu'on veut découvrir dans toute ta grâce, ta plénitude, ta bonté, ta justice. Donc, Seigneur, on s'attend à toi, on te remercie pour ce temps béni ensemble. Et à ta table maintenant avec ta divine parole, on te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Dieu, source de grâce dans la souffrance. Un autre message sur le thème du mois de mars. Dieu, la source de la grâce. Et je dirais que la vérité qu'on va voir aujourd'hui dans le message, on la voit à d'autres endroits dans Job, beaucoup la souffrance, hein, puis comment Dieu le rencontre. C'est le grand message du livre. Il n'y a pas eu la réponse à toutes ces questions, mais il y a eu celui qui est la réponse à toutes ces questions. Dieu s'est révélé à lui à la fin du livre. Paul, dans 2 Corinthiens, il n'a pas eu la réponse à sa requête. « Dieu, enlève-moi cette écharpe. » Non, Dieu a dit que sa grâce lui suffisait. Jésus est un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Sa vie n'était pas même s'il était le Fils de Dieu incarné, sa vie n'a pas été « Ah, oh, wow, moi je suis le Fils de Dieu, je suis au-dessus de tout problème. » Non, il était vraiment dans un monde tout brisé, qui est venu racheter, restaurer, mais il a eu part pleinement à la coupe amère, à la souffrance, jusqu'à la mort même de la croix. La souffrance dans la vie des enfants de Dieu, elle n'est pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin, c'est que la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu, elle a un sens, elle a un but. Et là, écoutez-vous, écoutez bien, je vais vous donner une phrase, je ne sais pas si vous êtes prête, qu'elle va surprendre, qu'elle va vous choquer. Mais c'est simple. Écoutez bien, je vais la dire deux fois pour être sûr qu'on est bien clair. C'est la prémisse du message. La vie chrétienne est plus facile qu'on le pense à cause de la souffrance. À cause?
Oui.
En dépit? Non, non, je répète. La vie chrétienne est plus facile qu'on le pense à cause de la souffrance. Puis je pense que le message va répondre à cette question. Vous dites, c'est paradoxal. Bienvenue dans la vie chrétienne. Il y a tellement de paradoxes dans la vie chrétienne. Ma grâce te suffit. Ma force accomplie dans la faiblesse. C'est paradoxal. Hein? Je suis faible, c'est là que je suis fort. Comprenez-vous? Mais c'est ça ici l'idée. Okay? On va explorer ça ensemble. Parce que la foi chrétienne, c'est ça. Il semble avoir des contradictions, mais c'est les paradoxes des vérités irréconciliables qui se réconcilient en Christ, par la foi. Lorsqu'on se confie en lui, on découvre que c'est vrai. Et donc, pourquoi cette phrase, la vie chrétienne est plus facile qu'on le pense à cause de la souffrance? Ben parce que c'est dans la souffrance que notre Père aimant nous révèle le secret, le trésor de la puissance de sa vie. C'est là que la loi de l'esprit de vie nous affranchit de la loi du péché et de la mort. C'est là que connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances devient vrai, devient précieux, prend tout son sens. Tout se joue dans notre réponse à ce que Dieu nous envoie. Et Dieu nous envoie ce qu'il nous envoie dans sa souveraineté, comme avec Job. Il a dit, Job, c'est ça que j'ai pour toi. Il n'a pas demandé son avis, c'est ce qu'il y avait. Dans sa bonté, parce que Paul était éprouvé dans sa chair, mais Dieu dans sa bonté a dit, non, je vais te laisser cette écharpe parce que j'ai une grâce qui est suffisante, j'ai une grâce qui va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et c'est aussi ce que Dieu a fait dans la vie de Jésus-Christ, qui à travers toute la souffrance qu'il a eu, a amené à la plus grande délivrance universelle et historique qu'il n'y a jamais eu, la délivrance de la croix. Donc, pour avoir cette réponse spirituelle qu'on souhaite, par l'esprit régénéré qui est en nous, ici je m'adresse aux enfants de Dieu. On va voir trois clés pour ouvrir la porte au Dieu, notre source de grâce dans la souffrance. Trois clés pour ouvrir la porte. C'est une porte à trois serrures, on peut dire. D'abord, la première clé, la grande réalité de la souffrance. La grande réalité de la souffrance. Et le livre des Lamentations en est certainement une preuve très puissante. C'est un témoignage de quelqu'un qui vit au milieu de la souffrance. Et je dirais que là-dessus, pour nous chrétiens, la foi chrétienne authentique, elle est réaliste. Elle n'est pas idéaliste. Ah, tout va bien aller. Tu sais, des fois, on dit, ah, et foi, en voulant dire, un espèce de wishful thinking, comme on dit en anglais, là, et foi, tout va être beau, puis. Non, non, la foi chrétienne est réaliste. Elle n'est pas utopique non plus. Ah, ben là, tu crois, tout va être beau, puis les petites licornes, puis. Ou, tu sais, l'évangile de la prospérité, là, et foi, là, tu n'auras plus de problème, puis Dieu va tout te donner, toutes les nananes que tu veux. Non, la vie chrétienne, elle est réaliste en sorte qu'elle acquiesce ce que Dieu dit. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dieu promet la paix. Mais encore là, vous voulez des paradoxes, en vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La foi s'accroche au fait que Jésus a vaincu, que dans la tribulation, on peut s'accrocher à lui qui est notre victoire. C'est ça la foi chrétienne. Puis regardez un autre passage qui est écrit à des chrétiens persécutés, 1 Pierre, très précieux, tellement merveilleux sur toute la question de la souffrance, de la persécution. Dans 1 Pierre au chapitre 4, les versets 12 et 13, on peut dire, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Façon assez différente de voir la souffrance, n'est-ce pas? Il y a un but, il y a un sens à la souffrance. Le chrétien ne vit pas comme ça, juste à la voix comme je te pousse. Il y a un sens à ce qu'il vit. Pas savez-vous quoi? La réalité de la souffrance, notre premier point, c'est une vérité universelle et inévitable. Personne n'y échappe. Même le Fils de Dieu, en venant sur terre, n'y a pas échappé. Mais là, je pose la question, qu'est-ce que la souffrance et quelle en est la cause? Ben d'abord, la souffrance, on peut définir ça simplement, c'est la douleur causée par les différents problèmes de la vie. C'est ça, la souffrance, quand on souffre de ce monde ici-bas. Et la cause, ben la cause, c'est le péché, c'est la chute. Notre monde tout démantibulé. Et pour être plus spécifique, j'aimerais vous donner 5 catégories où la réalité de la souffrance se manifeste. D'abord, si je mets ça, mettre la faute de ses autres, la souffrance causée par autrui. Ben oui, ça arrive. Le rejet, le mépris, le divorce, la trahison, l'abus, la persécution. On pourrait continuer. Un deuxième endroit où est-ce qu'on trouve la souffrance causée par soi-même. Hein, on peut bien mettre la faute sur les autres, mais à un moment donné, il faut se regarder dans le miroir et dire « Ouais, j'ai pas mal causé des problèmes moi-même dans ma vie qui me font souffrir. » Donc, des péchés commis. Tu sais, puis où des fois, l'anxiété, l'amertume, la convoitise, OK? Ça peut aussi inclure de la souffrance qui vient de mauvaises décisions qu'on a pu prendre, au niveau financier, au niveau des relations, OK? Tout ce bagage-là de la souffrance causée par nous-mêmes. La souffrance causée par des circonstances hors de notre contrôle. La perte d'un emploi, un handicap, la perte de la santé ou la détérioration de la santé, la mort de quelqu'un de proche. On n'a pas de contrôle là-dessus, on subit ces choses. Quatrième domaine où la souffrance se présente, par l'ignorance en tant que chrétien, du fait qu'on est sous la nouvelle alliance. Comment on se fait souffrir souvent en essayant dans nous-mêmes puis en se mettant des fardeaux que Christ a porté pour nous. La souffrance d'ignorer la Nouvelle Alliance, c'est la conséquence de vivre selon la chair. La Nouvelle Alliance, c'est vivre selon l'Esprit. La chair, c'est quand nous autres, on essaye, puis là, ben, on se pète le nez, puis on se repète le nez, puis on est misérable. Au lieu de marcher par l'Esprit. Donc, on peut vivre avec un sentiment de condamnation, de frustration, d'échec, et ainsi de suite. OK? Et finalement, la souffrance... par les attaques spirituelles. Satan veut attaquer les enfants de Dieu avec le doute, les fausses croyances. Des fois, comme avec Job, justement, en permettant des circonstances adverses, des fois, ça peut être directement une attaque de Satan. Donc, c'est là qu'on retrouve les différents endroits où la souffrance se manifeste. Et oui, si vous posez la question, Dieu peut enlever toutes ces sources de souffrance. Puis, il va le faire un jour. Mais Dieu est au-dessus de ça, il est plus grand que la souffrance et il s'en sert pour atteindre son but. Fait que j'ai une petite nouvelle pour vous autres, si vous pensez que la fin de la souffrance va arriver ici-bas sur terre, ça ne va pas arriver. Parce que ça fait partie d'être dans ce monde-ci. Mais Dieu aime se glorifier par sa grâce suffisante et toute-puissante au sein même de la souffrance. C'est le message, justement, du livre de Lamentations. C'est aussi dans... la situation de Paul, on en a parlé tantôt, Dieu n'a pas répondu à sa prière. Dieu avait demandé dans chapitre 12, verset 7, dans 2 Corinthiens, « Enlève-moi cette écharpe. J'ai prié 3 fois, Seigneur, que Paul nous partage. » C'est ce qu'il voulait. Mais Dieu lui a donné mieux. Si Dieu nous dit non à ce qu'on veut, c'est parce qu'il veut nous donner mieux. Est-ce qu'on croit que sa volonté est bonne, agréable et parfaite?
Amen.
On ne regarde pas, on va dire, « Ouais, mais là, Dieu, il a laissé avoir cette souffrance-là. » Oui, mais il a donné... la grâce surnaturelle, puis le fruit surnaturel qui va avec. C'est ça, Dieu lui donnait lui-même. Dit, je ne te donne pas la réponse à ta prière, je me donne à toi, je suis la réponse à ta prière. Puis ça, c'est suffisant. Parce que quand on dit, ma grâce te suffit, là, la grâce, tantôt, Elisabeth nous l'a cité, la grâce, c'est une personne. Comme on dit, la vie chrétienne, c'est une personne, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. La grâce de Dieu a été manifestée. Jésus et celui qui nous communique toute la grâce de Dieu. Et là, pour faire un jeu de mots un peu trop facile, ceci dit, avec la réalité de la souffrance, je vais amener un dernier point. De grâce. Ça, c'est bon jeu de mots. De grâce, face à la réalité de la souffrance. C'est-à-dire que ce soit dans votre vie personnelle ou dans la vie d'autrui, les gens avec qui on est en relation. gardons-nous de ce que c'est ça. J'appelle les platitudes chrétiennes, là, des phrases toutes faites, des versets de micro-ondes qu'on sort et qu'on pipe demain. Parce que ça, la chair peut faire ça. La chair peut sortir ça de sa poche. Ça. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand la souffrance, elle dit arrêtez. Arrêtez, connaissez-vous psaume 46:11? Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez d'abord, puis demandez au Seigneur, le Saint-Esprit, comment lui veut, qu'est-ce qu'il y a pour vous là-dedans? Où il se trouve là-dedans? Cherchez le qui de la situation. Que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre, ce qu'on a besoin, c'est pas le comment, puis le petit verset qu'il faut, c'est le qui de celui qui veut nous communiquer. Probablement qu'il va vous donner des versets, qu'il va vous rappeler un chant peut-être, mais l'idée c'est, cherchez-le en lui, tournez-vous vers lui. C'est bien mieux que ce que nous, on peut sortir de notre poche tout usé, puis ratatiner, puis on donne ça à quelqu'un, ou on se le donne à nous-mêmes. Autrement dit, pour reprendre les versets ici dans Lamentation, attendons-nous en silence au secours de l'Éternel. Pas toujours facile de faire le silence quand on souffre. Des fois, les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous autres. Et quoi? Savez-vous quoi? Parlez pas, parlez-vous pas à vous compter des peurs, à vous compter des toutes sortes de choses. Vous parlez pas à l'autre tant que Dieu vous aura pas montré ce qu'il veut lui communiquer. Savez-vous quoi? Il va vous communiquer Jésus, votre vie. Il va vous communiquer quelque chose par rapport à Jésus. Dans la Bible, là, c'est plein de Jésus partout. Les Écritures rendent témoignage de moi. Fait que le Seigneur va vous montrer quelque chose dans sa parole, ça va être précieux, ça va être du sur-mesure. C'est de ça qu'on a besoin. Dans la réalité de la souffrance. Pourquoi ça, c'est important? À cause de la deuxième clé. Non seulement il y a la grande réalité de la souffrance, mais la deuxième clé ici, c'est la grande lutte de la souffrance. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La grande lutte de la souffrance, et cette lutte, c'est celle de nos pensées. Et qui vont aussi mélanger toutes nos émotions là-dedans face à la vérité, au mensonge que suscitent toutes les situations qu'on peut vivre. Et ça, souvent, ça va faire appel à notre volonté. On a peur, on veut agir selon cette peur. On est amer, on veut agir selon cette amertume. On pense à des choses qu'on repense, puis qu'on repense, on veut agir selon ça. Nos pensées, nos émotions vont affecter comment on va agir ou réagir. C'est ça la lutte. La souffrance amène son lot de dommages collatéraux. Quand on souffre, c'est pas comme « Oh, ça fait rien, puis on est au-dessus sur un petit nuage. » La vie, je l'ai dit tantôt, la foi chrétienne, elle est réaliste. Et ça fait partie, on est éprouvé, ça donne toutes sortes de dommages collatéraux. On voit ça dans le verset, dans les versets 18 à 20. Ici, là, Jérémie, il dit « J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » C'était rendu loin, là. C'est comme, là, je vois tout ce qui arrive, là, je lance la serviette. J'ai plus d'espérance. Ça veut dire qu'il ne voyait plus la lumière au bout du tunnel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, ses yeux, ses regards étaient sur toute la misère. Puis c'était pas, c'était rudement réaliste. Là. Je veux dire, c'était pas une théorie, là. Il vivait vraiment des choses extrêmement difficiles. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'était les dommages collatéraux. On peut dire que c'était peut-être une dépression, en tout cas certainement du désespoir, parce qu'il dit désespoir, plus d'espérance, plus d'espoir. Puis écoutez aussi le psaume 94, tantôt j'y ai référé. Mais ça dit en psaume 94, à partir du verset 18, « Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le refuge, et le rocher de mon refuge. » Oui, il y a les dommages collatéraux, mais remarquez comment le juste se refuge en l'Éternel. Mais remarquez en plus, tu sais, si c'était juste notre lutte intérieure, ça serait déjà une chose. Mais en plus, on a un ennemi. L'ennemi de notre âme, comment qui est appelé dans l'Apocalypse 12, 10? L'accusateur des frères. Puis là, il nous assaille. Avec des choses dans le genre, Dieu doit être en colère avec toi. Il y a quelque chose de mauvais que tu as dû faire qui te fait mériter ça. Si tu étais un meilleur chrétien, tu ne réagirais pas à la souffrance de cette manière-là. T'as-tu vu comment tu es un exemple piteux de chrétien, de chrétienne? Si ton mari, ta femme, tes enfants changeaient, ça serait donc mieux. Tu dois t'améliorer, t'efforcer, essayer plus fort. Puis là, on a des fardeaux, puis on croule sous les fardeaux. Le but de l'ennemi avec ces questions-là, savez-vous, c'est quoi? Dans cette lutte-là, dans la lutte, tu sais, il y a la grande réalité de la souffrance, puis dans cette réalité-là, la grande lutte, le but de l'ennemi, c'est de nous enlever les yeux de sur Jésus, le chef et le consommateur d'une foi. That's it. Comme avec Pierre. Hey, il a marché sur les eaux. Je pense qu'on peut quand même élever notre chapeau, là.
Amen.
Amen. Ça, c'est ton préféré, hein? Amen, notre cher Pierre. Mais savez-vous quoi? Ça s'est mis à littéralement à caler quand il a enlevé les yeux sur Jésus. C'est ça que notre chair et notre ennemi veut nous amener à faire. L'ennemi veut nous amener, en enlevant les regards de sur Jésus, à nous remettre au pattern de notre chair. À ce que nous, on est habitués, à ce qu'on a toujours fait. Il veut miner, briser notre dépendance, notre connexion vitale avec Dieu. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça la lutte. Ça, c'est dans nos pensées. Puis la volonté, la réponse qui va en découler. Pourquoi? Parce que Satan sait que tout se joue là. La connexion vitale. Il ne peut pas défaire la connexion éternelle du fait que Christ est le cep, nous sommes les sarments, qu'il est la vigne, nous sommes les branches. Mais il veut nous briser la réalité dans notre vie. Il veut qu'on pense que comme si c'était défait. Il ne peut pas le défendre, mais il peut nous faire croire que c'est défaite. Parce qu'on ne se sent pas de même, puis on ci, puis on ça, en réaction à ce qu'on vit. Parce que Satan sait très bien que lorsqu'on porte les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, ou pour le dire dans les mots de la 79, celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, il sait que ce que ça va produire dans notre vie, c'est du fruit à la gloire de Dieu. Et c'est la troisième et grande, la troisième grande chose. Non seulement il y a la grande réalité de la souffrance, il y a la grande lutte de la souffrance, mais il y a aussi la grande leçon de la souffrance. Voulez-vous qu'on continue tant qu'être rendu là? Voulez-vous la leçon? Ben, on continue la semaine prochaine? Je ne vais pas prendre trop de temps, là. Ça fait 23 minutes que je prends de votre temps. Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Non. Hey, non, vraiment. Non, parce que là, je fais des jokes, mais c'est le cœur, vraiment. Là. Je pense que tout est important dans le message, mais là, il y a vraiment la leçon. On veut tirer la leçon de ça. La grande leçon de la souffrance. C'est quoi cette grande leçon? En un mot, brisement. Brisement. Les Anglais disent brokenness, OK? Mais ça se dit brisement en français. En tout cas, je l'ai vérifié sur Internet, là, je n'ai pas regardé dans le petit Larousse, là, peut-être qu'en 1952, il ne disait pas ça, mais on dit ça aujourd'hui. Et c'est le fruit spirituel que Dieu veut produire par la souffrance. Vous connaissez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7? Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Notre potier craque ses vases pour se manifester en eux. On est craqué, hein? Puis Dieu nous craque, Dieu nous brise, parce qu'il veut se manifester. Il ne faut certainement pas voir le brisement de Dieu dans notre vie comme quelque chose de négatif. Puis je sais qu'il y en a qui le comprennent, pas plus tard que mercredi, quand on priait, quelqu'un priait pour remercier Dieu, puis c'était pas dans ces mots-là, mais ça disait merci Dieu pour le brisement. Il comprend quelque chose de précieux. Pourquoi on ne devrait pas voir ça comme négatif? Parce que c'est le processus spécifique par lequel Dieu accomplit ses buts précis et bienfaisants dans la vie de ses enfants. Je l'ai dit, la souffrance a un but. La souffrance a un sens. Pourquoi? Parce que le type de brisement que Dieu exerce dans la vie de ses enfants, C'est pas un brisement qui nous fait perdre d'espoir, nous briser pour nous atterrir, puis il n'y a plus d'espoir. C'est ce qu'on voit avec Jérémie. Il a repris espoir. Oui, il a été brisé. C'est clair et net. Mais vraiment, c'est le brisement qui redonne espoir. Pour donner une illustration, c'est comme, vous connaissez l'expression, le trou dans une prison. À ce temps, ça ne s'appelle plus le même. Là. À ce temps, on appelle ça l'UIS, l'unité individuelle de ségrégation. En tout cas, me rappelle-tu? Mais le trou, là, c'est un... Non, mais pour de vrai, là, puis c'est pour ça qu'ils ont changé la loi, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment une place qui n'a pas d'espoir. T'as été un mauvais garçon, une mauvaise fille, tu t'en vas dans le trou, t'es tout seul, t'as quatre murs, tu sors une heure sur 24, puis tu perds espoir. Ouais, t'es solitaire. Mais le châtiment de Dieu, ou le brisement d'un enfant de Dieu, c'est pour briser sa volonté propre. C'est comme avec un enfant. Quand on le châtie, on veut briser sa volonté propre. Le premier... Le prisonnier, il est sans espoir. Le deuxième, l'enfant qui est châtié par son père aimant, c'est fait dans l'amour, c'est fait dans les soins, et ça donne espoir par rapport au futur. Briser cette volonté têtue pour que plus tard, ça porte du bon fruit. Et Dieu doit briser notre dépendance à la chair. Il le faut. Il faut pour qu'on porte du fruit. Parce que Dieu fait ça, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est pas parce qu'il est en colère après nous autres, c'est, au contraire, c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il veut le mieux pour nous, c'est pour ça qu'il nous brise. C'est dans son amour qu'il fait ça. Et là-dessus, là, remarquez, là, trois étapes du brisement qui sont tellement importantes. Ceux qui prennent des notes, prenez ça en note, là, c'est du bonbon. Le brisement, d'abord, Dieu veut révéler la chair et son impotence. Il veut montrer, là, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair, rien de bon avec ça. Puis il veut nous, deuxièmement, il veut nous libérer de la dépendance de cette chair. Il ne veut pas juste nous montrer que la chair ne sert à rien. Il veut nous libérer de cette dépendance qu'on a à notre chair, de nos mécanismes de défense, de nos façons qu'on a toujours eues de réagir aux choses. Okay? Dieu veut faire ça. Puis en plus, c'est encore merveilleux, tu sais, it only gets better. Je veux dire, en plus, il veut nous révéler son Fils. Il veut nous révéler la grâce de dépendre de lui. Et comment c'est beau, comment c'est bon. Autrement dit, Dieu veut nous montrer comment la chair ne sert à rien, mais comment lui, il est notre tout. Il est suffisant, il est merveilleux. Écoutez à ce sujet, Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17. « Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. » C'est ça que Dieu veut faire avec le brisement. C'est la différence entre connaître intellectuellement ou juste connaître comme un fait que Jésus habite en nous puis apprécier le fait qu'il habite, qu'il demeure en nous. Il y a une différence. Il y a vraiment une différence. C'est la différence de la foi. On va parler de ça après-midi. La démonstration de la foi. On va voir ça dans le message après-midi. Ceci dit, la souffrance nous amène souvent au brisement. Mais c'est pas automatique. Écoutez bien, là. J'ai-tu encore toute votre attention? Peut-être que vous êtes fatigué un peu, mais vous le réécouterez au pire. Il y a vraiment des vérités précieuses là-dedans. La souffrance amène souvent le brisement, mais c'est pas automatique. La souffrance, ça dépend comment qu'on répond. Ça va dépendre à comment on répond à la souffrance. Est-ce en dépendant de la chair? Pas de brisement. En dépendant de Dieu, en répondant, enfin, là, Dieu va nous briser. On voit ça encore avec Paul. Hey, Paul, il en a vécu du brisement dans sa vie. Là. Mais avez-vous comment aussi Dieu l'a utilisé? Mais il a été vraiment brisé. Donc ça a commencé de même, puis ça a continué tout le reste de sa vie. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 11 et 12, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Hein, » Il était constamment brisé. « Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Paul décrit son brisement spirituel parce que avant il était un champion spirituel aux yeux du monde, aux yeux. Mais Dieu l'a humilié, Dieu l'a brisé par la souffrance, autant physique que spirituelle, que relationnelle avec les Corinthiens, c'était pas évident, là. Afin de manifester Jésus, sa vie, à travers lui. Et il a passé, avez-vous vu le pedigree? Avez-vous regardé dernièrement le pedigree de Paul, là? C'était quoi quand je dis, là, le brisement, là? C'était pas... quand il parle, là, il dit, je parle en train, mais extravagant, là, qui était... il dit, les travaux, les coups, les emprisonnements, souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Ça, je sais pas, il était où, mais en tout cas, on peut appeler ça pas mal être brisé.
C'était...
Ouais. Ouais, c'est ça, quelque chose de même, mais il dit dans l'abîme, en tout cas. Puis il continue, puis dans le fond, on voit que en tout point, Paul le gardait dans cet état de dépendance. Et est-ce que on a besoin de passer par là, par des épreuves aussi grandes? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais on n'a pas à se casser la tête par rapport à ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin. Dieu sait ce qu'on a besoin. Puis c'est ce qu'il nous envoie. La question, c'est comment je réponds? Seigneur, si je l'ai, c'est parce que j'en ai besoin. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un sens à nos souffrances. Dieu, le sens à la souffrance, c'est l'amour de Dieu. C'est pas souvent, encore là, avec les attaques de Satan, « Ah, c'est parce que Dieu te rejette, parce que Dieu t'aime pas, Dieu te punit. » Mais j'aimerais vous amener juste une série ici de signes de croissance spirituelle par laquelle on peut évaluer si on tire la grande leçon de la souffrance. Écoutez bien. Juste des signes ici qui vont nous montrer la grâce de Dieu à l'œuvre en réponse à la souffrance dans notre vie. Vous grandissez dans la conviction et dans l'appréciation de l'amour de Dieu envers vous. C'est un bon signe, ça. Vos souffrances émotives, les blessures qu'on a en dedans, là, commencent à guérir. Vos proches se sentent plus acceptés par vous. Vous n'êtes pas sûr? Demandez-leur. Vos mécanismes de défense, là, la chair, ou si vous voulez, la configuration par défaut, se défait de plus en plus et vous êtes de plus en plus dépendant du Seigneur dans vos réactions, à sa vie en vous, dans vos relations, votre travail, votre service spirituel, OK? Vous apprenez à donner vos problèmes à Dieu et de le laisser dealer avec le stress. Vous expérimentez plus de victoires sur vos mauvaises habitudes et vos penchants qu'avant. Vous acceptez, vous appréciez la façon que Dieu vous a fait. Dans votre personnalité avec ses défauts et ses problèmes, dans le corps qu'il vous a donné. Hein, tu sais comment Dieu vous a fait, là, vous êtes une créature merveilleuse. Vous l'appréciez de plus en plus. Vous l'acceptez. Vous reconnaissez vos patterns d'autosuffisance, vos stratégies charnelles. Tu sais, la façon qu'on est habitué de répondre là, par nous-mêmes. Et vous ne les laissez plus vous définir. Mais vous laissez ce que Dieu est en train de faire vous définir. Ce que vous êtes en Jésus-Christ, pas ce que vous étiez en Adam. Et finalement, votre obéissance pour Dieu est de plus en plus motivée par l'amour et non la culpabilité et un sens de l'obligation. Vous les repasserez ceux-là. Il y a quelque chose de vraiment bon à réfléchir là-dessus. En bref, là, on pourrait dire, pour résumer tout ça, vous avez une confiance qui est centrée sur ce que vous êtes en Jésus-Christ. Et non pas sur votre comportement, vos échecs, vos succès, votre apparence, votre service. Non, sur ce que vous êtes, sur ce que Dieu a fait de vous. Pas sur ce que vous faites, mais ce que Dieu a fait de vous. Et rassurez-vous, du point de vue de Dieu, c'est obligatoire que tous les chrétiens expérimentent le brisement. Fait que si vous pensiez être exclu ce matin, vous ne serez pas exclu. « Ah non, mais ça me fait peur! » Non, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous divin. Paul, il comprenait, parce que lui, quand on a lu son pedigree, là, il dit « Je regarde toutes choses comme de la boue. » Comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Puis où vous pensez qu'il rencontrait dans la communion de ses souffrances? Oui, la puissance de la résurrection, mais aussi la communion de ses souffrances. Pour Paul, c'était plus précieux de connaître son Dieu, même en plein milieu de la souffrance, même au beau milieu, comme ici dans Lamentation, que de passer à côté de la souffrance, puis passer à côté de son Dieu de ce fait même. Donc, je vous laisse avec, je conclue avec 4 pensées. On a parlé de la nouvelle alliance dans les derniers messages. Ben, je veux amener juste un peu d'eau au moulin par rapport à tout ça pour conclure aujourd'hui. Est-ce que vous vous appropriez la vérité de l'amour inconditionnel, de l'acceptation que Dieu a de vous? Est-ce que c'est de plus en plus vrai, précieux et concret pour vous autres? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ou pour le dire dans toute la belle simplicité de Philippiens 1:21, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Est-ce que vous grandissez dans cette appropriation de cet amour? Est-ce que vous développez une conviction profonde et puissante que les stratagèmes de votre chair, on pourrait dire les stratagèmes d'autosuffisance, sont les plus grands problèmes qui vous empêchent d'expérimenter Christ en vous? C'est ça la vérité. C'est ça qui est entre nous et Dieu. C'est notre chair. C'est nous, notre façon de réagir. Est-ce que vous grandissez dans ces convictions-là? Est-ce que vous affirmez ouvertement à Dieu que vous croyez ces vérités? Et là, écoutez bien, même si vous ne les ressentez pas tout le temps, vous accrochez à ça comme votre vie, parce que c'est votre vie. Même si des fois, ça ne marche pas avec comment qu'on parle. Puis, non, mais là-dessus, hein, on est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et si vous dites, ouais, mais j'ai donc bien de la misère, ben priez comme ça dit dans Éphésiens 18, que Dieu illumine les yeux de votre cœur là-dessus. Puis il va le faire, parce que Dieu rémunère ceux qu'il cherche. Dieu se laisse trouver par ceux qu'il cherche. Et finalement, concentrez-vous sur Jésus, votre vie, et non pas sur vous-même, les autres, puis les circonstances. C'est pour ça que Dieu vous envoie des problèmes, parce qu'il dit, hey, c'est moi, là, ici, le plus important. Là. Moi, je te veux, toi. Puis je me présente à toi, là. Tu me veux-tu, moi? Dieu, c'est un rendez-vous. C'est comme, hey, viens. C'est relationnel. C'est comme ça qu'il nous a sauvés. C'est comme ça que la vie chrétienne continue. C'est ça, toute l'idée de la souffrance. C'est ça, la grande leçon de la souffrance. Oui, il y a le brisement. Mais le brisement est pour la restauration. Il nous brise pour nous reconstruire. Et les aimants que je vous ai amenés, là, c'est pas une gamique, là, un truc. Hey, j'ai fini mon message demain, je vais écrire la leçon, je vais mettre ça, puis là, je vais être un chrétien superman. Non, c'est juste des vérités qui ramènent nos yeux à la bonne place. C'est le moyen par lequel on découvre, on rencontre et on grandit dans notre relation avec le Dieu, la source de la grâce dans la souffrance. Donc, mon appel, c'est simplement des questions ce matin. Comment réagis-tu à la souffrance? Comment réagis-tu à la souffrance? Le but de Dieu, il y a un sens à la souffrance, il y a un but, c'est de nous briser. Oui, puis ça, c'est un rendez-vous. Mais est-ce que tu l'acceptes? Ma deuxième question, comment tu réagis? Est-ce que tu acceptes la souffrance? Est-ce que tu l'acceptes comme venant de Dieu et comme bienfaisante, comme ayant un but bénéfique, restaurateur? Un but pour sauver, peut-être, pour être réconcilié avec Dieu si vous ne le connaissez pas, ou pour expérimenter le réconfort de sa grâce. Et dans ton acceptation comme ça de la souffrance dépend l'expérience de la vie de celui qui est la source de toute grâce dans la souffrance. Merci Seigneur de ce que ta parole... Elle est vivante, elle est bonne, elle rassasie notre âme. Je sais ici, tous tes enfants, ce matin, on est venus à ta table, et Seigneur, tu as rassasié notre âme. C'est toi, Seigneur, c'est pas le messager. Le messager, c'est juste un instrument. C'est le message de la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est le message que la réalité de la souffrance, elle est là. La lutte de la souffrance, elle est là. Mais Seigneur, la grande leçon, c'est que c'est un rendez-vous. C'est un endroit béni, unique. C'est l'expérience de la rédemption en Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas racheté, sauvé une fois pour toutes de tous ses péchés, qu'aujourd'hui il passe par la croix du calvaire, qu'il voit le sang comme précieux pour effacer, laver tous ses péchés. Et que nous, tes enfants, voient cette croix. Cette croix qui s'est occupée de nous autres, de notre nature rebelle et têtue, qu'à cause que on est mort avec Christ, que maintenant le corps du péché, cette chair qui nous habite encore, elle a été réduite à l'impuissance. Dieu s'est occupé de nous donner tout pleinement en Christ pour qu'on marche dans la victoire, dans une espérance parfaite. Merci que tu renouvelles notre espérance même en plein milieu, au sein même de la souffrance. On te loue, on te bénit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prier si vous voulez.